Eh bien, bonjour, bonjour et bienvenue pour ce deuxième Monnaie Libre de la saison 2016-2017. Je reçois pour la deuxième fois dans Monnaie Libre un autre développeur d'unitaire. On avait eu Kimamila Benoît la dernière fois et aujourd'hui, eh bien, c'est vite Vincent. Salut Vincent.
Salut Stéphane.
Alors Vincent, tu fais partie hein, des développeurs du projet d'unitaire hein, depuis quelques temps maintenant. Hein, ça va commencer à faire. Ça fait combien de temps d'ailleurs, tiens?
2014.
Eh ouais, donc voilà, t'es dessus, t'es à fond. On va voir avec toi plusieurs thèmes intéressants, puisque tu travailles sur un sujet différent hein, de celui de Kimamila, qui travaille plutôt sur Cesium, et puis on l'a vu aussi sur une plateforme de marché. Toi, tu travailles donc sur un autre client d'Unitaire, qui est un client qu'on peut appeler lourd, en fait tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure, qui s'appelle Sakya, et on aura aussi Inso, qui est le lead développeur hein, sur ce projet aussi, avec qui tu travailles de près, hein. C'est le projet où vous êtes deux, hein, vraiment, à être très actifs dessus. Donc tu vas nous parler de ça, on va bien sûr faire un petit bilan aussi de ton bilan, disons, je dirais, des RML7, où tu étais participant les 4 jours, et puis tu as donné une conférence aussi, très intéressante, que j'ai trouvé très très bien. Tu as aussi participé à l'élaboration de Geconomicus 2.0, le jeu qui permet de simuler le système monétaire, tu vas nous en parler. Tu as fait 4 conférences cet été, bravo, par contre, peu de retours pour l'instant, parce qu'on n'en a pas vu, mais bon, tu vas nous en parler plus peut-être. Et puis, tu prépares aussi un bac à sable création monétaire, alors c'est plus pour apprendre les principes monétaires aussi, tu nous en parleras. Et enfin, on terminera bien sûr sur les RML8 à Toulouse, 17 au 20 novembre, bien sûr. Tu annonces déjà ta présence. Voilà, ça fait très riche. Alors, on y va, on démarre. RML7, le bilan, part vite.
RML7, oui. Déjà, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de personnes qui sont venues nous écouter, travailler, faire des ateliers. C'était assez impressionnant parce que, effectivement, j'avais fait 3 rencontres avant. Où on était beaucoup moins nombreux, et là c'était impressionnant, et puis c'était du coup intéressant, parce qu'il y avait pas mal de profils différents, on a eu quelques développeurs les 2 premiers jours, et puis pas mal de personnes, et puis qui ont fait le jeu, qui ont fait ton atelier, qui ont fait, et qui ont pratiqué le dimanche, vraiment, ça c'est, j'ai l'impression que le public s'élargit, et intéressant.
Ouais, très intéressant. Alors, tu as donné aussi une conférence sur la théorie relative à la monnaie qui est vraiment bien. On peut la trouver sur Internet. Alors, c'était quoi ton approche, en fait, sur ce sujet-là?
Alors, mon approche, moi, je pars du problème des 3 producteurs et puis je me penche, en fait, sur comme si la création monétaire, c'était un problème technique qu'il fallait résoudre. J'ai une approche de technicien, en fait. Donc, j'essaie d'analyser les problèmes, les choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, les pièges à éviter. Et puis, je regarde comment en création monétaire, comment la monnaie dette, l'euro, réussit à s'en sortir et à faire un système parfait. Et comment la TRM et les monnaies libres font un autre système encore plus parfait.
Ouais. Alors ça on ne sait pas hein, parce que on suit Baudor. Enfin on a de bonnes raisons de le penser parce qu'on fait des simulations, mais on n'est jamais sûr avant de faire une expérience d'un résultat. Il faut toujours garder une certaine objectivité, mais pour l'instant effectivement en termes de simulation en tout cas ça donne de bons résultats. Alors autre thème sur ces RML7, tu as participé à l'animation du jeu Geconomicus. Hein. C'était la première fois qu'on jouait la 2.0.
Oui, voilà, sur les règles de la 2.0, le jeu avait quand même beaucoup, pas mal évolué, avec une notion de cycle des valeurs, en plus du cycle des billets, qu'il fallait expliquer, et qu'il fallait assimiler et expliquer aux joueurs.
Ouais, ça s'est finalement pas trop mal passé pour une première, je trouve.
Ah oui, ça s'est plutôt très bien passé. Malgré le nombre, on a fait quand même 20 personnes, ce qui est énorme à gérer, en fait. C'est très bon, 20, mais alors c'est un petit peu compliqué le matin sur la monnaie dette. Il y a une file d'attente devant la banque, et devant le banquier, et c'est un petit peu long à gérer. Donc, mais voilà, mais je crois que tout le monde était content et tout le monde a, a pu profiter du jeu et a pu analyser exactement ce qui se passait dans différentes monnaies, dans la monnaie dette et dans la monnaie libre.
Ouais. Donc alors, et donc quel bilan tu tires de ces rencontres finalement par rapport à CRML7 comment tu analyses cet événement? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des retombées derrière? Est-ce que ça permet de faire avancer le projet de logiciel de monnaie libre?
Ah oui, énormément, énormément. On a beaucoup, déjà, on avait atteint un plafond de 30 testeurs sur la monnaie de test, hein, l'année dernière,
Ouais.
sur un an. Et là, en quelques mois, là, depuis RML7, on est à 140, je crois. Enfin, je suis plus parce qu'il y en a
Plus de
trop.
150, il y a plus de 150, on n'est pas loin de 155 là, je crois, au moment où on parle.
Voilà, 155 testeurs sur la monnaie de test, c'est du jamais vu. En quelques mois, donc effectivement, là, ça commence à y avoir voilà, les retombées en termes de contributeurs, donc de testeurs de la monnaie, il y en a énormément. De développeurs un peu moins, mais il y en a qui pointent le bout de leur nez, là, qui arrivent sur le forum, qui commencent à décortiquer le code, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis on a un deuxième forum où on parle de choses autour des monnaies libres. Voilà, de manière un petit peu plus large, quoi, autour de l'économie, de la société, de la démocratie. Et ça, c'est pas mal aussi. Voilà.
Ouais, donc voilà, donc DRML7 effectivement positive. Donc là, tu viens de, je crois, de résumer ton point de vue là-dessus. Alors très bien. Alors on revient sur ce jeu Geekonomicus parce que tu es un contributeur important de cette version 2.0, puisqu'avec ces nouvelles règles qui intègrent désormais, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, plus seulement uniquement le roulement des billets, parce qu'il y a le roulement des joueurs, puisque les joueurs sont censés vivre une vie de 80 ans limitée, donc ils sont classés par âge, et donc à chaque tour il y a une classe d'âge qui disparaît et une classe d'âge qui renaît en quelque sorte, et puis les billets tournaient déjà, mais les valeurs tournaient pas, les valeurs économiques tournaient pas, on les a fait tourner, donc tout tourne maintenant, les joueurs, les billets et les valeurs économiques, ce qui permet d'avoir un jeu 100% dynamique. Alors donc tu as participé à cette 2.0. Alors quelle a été la genèse de ce 2.0, de ce Geekonomicus 2.0? Quel a été ton apport? Est-ce que tu peux nous en parler pour les auditeurs? Et qu'est-ce que ça donne au final?
Oui, alors en fait, j'ai fait un petit peu le même principe que pour la TRM. C'est-à-dire que pour la TRM, j'avais poursuivi et terminé un projet de Stéphane Klein qui avait mis, on va dire, la TRM en format électronique, en ligne, qui permettait de traduire le contenu facilement sans se soucier de la mise en forme. La mise en forme est en fait un logiciel qui s'occupe de manière automatique de faire un fichier PDF ou un e-book ou un site web.
Ouais.
Voilà. Donc j'ai repris le même principe pour présenter les règles sous forme de site web. Là, c'était uniquement un site web pour Geekonomicus. Et j'en ai profité effectivement pour faire le design de billets avec des petites pastilles de couleurs pour que ce soit facile à repérer le cycle des billets. Et puis également, j'ai designé aussi les cartes pour enrichir un peu le jeu, même si on peut jouer avec des cartes classiques. C'est vrai que jouer avec des cartes dédiées au jeu, c'est plus agréable, quand même.
Ouais, c'est plus agréable. Donc effectivement, donc 4 sets de cartes de 4 couleurs. Alors tu as appelé ce style Révolution, on pourrait créer d'autres styles. Alors dans ce style Révolution, c'est quoi les 4 grands thèmes que tu as retenus?
Alors attends que il y a l'alimentation au départ.
Ouais.
Après, je crois qu'il y a la culture,
Ouais.
ensuite l'énergie et ensuite la technologie. C'est une espèce d'évolution de l'humanité à l'ère au 19e siècle, quoi, l'ère industrielle. Voilà, on est une société plutôt agricole, qui commence à se cultiver, puis commence à récolter de l'énergie, là, à récupérer de l'énergie et qui commence à fabriquer des technologies. Sachant qu'effectivement, ça cycle constamment.
Oui, ça tourne donc. Ouais.
Quand la technologie est à la mode, et puis on voit un retour de l'écologie qui ramène le cycle de l'agriculture originelle, en fait.
Ouais, voilà, donc il y a une espèce, il y a comme ça un roulement, là aussi de l'intérêt des valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes qui reviennent, mais c'est le même thème, disons, le même thème qui revient. On peut supposer qu'au fil des années, c'est bien que ce soit le même thème, c'est pas les mêmes, exactement les mêmes valeurs économiques qui sont déployées. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc on peut inviter les auditeurs à aller voir ces règles du jeu, donc Gconomicus sur, alors vous pouvez aller sur gconomicus.glibre.org. Ça c'est un des sites, il y en a d'autres. Il y a le, toi aussi tu as une adresse qui alors l'adresse c'est un site perso pour ton site à toi qui est
Oui, vite.free.fr/gconomicus/fr pour le français et en pour l'anglais. Et les deux
voilà.
langues. Mais j'ai des liens en fait sur mon site, hein, vite.free.fr. Il y a parmi tous les liens, il y a les liens Gconomicus dans les deux langues.
Voilà, vite.free.fr. Voilà, vous allez sur le site de Vite pour avoir toutes les versions françaises, anglaises, à jour, etc. Et alors, vous pouvez aussi, bien sûr, avoir le code de ce jeu donc sur GitHub. Ce qui veut dire que donc vous pouvez récupérer les images, les textes, etc. Donc, vous pouvez faire imprimer les cartes qui ont été designées donc par Vite. Eh bien, elles sont sous licence libre, donc c'est faisable sans problème, sans besoin de demander d'autorisation particulière. Voilà. Donc, et vous pouvez aussi contribuer, pourquoi pas, à l'évolution du jeu, bien que pour l'instant, on n'a pas prévu d'évolution majeure. On estime que là, vraiment, on est sur une version stable et il n'y a pas de besoin immédiat d'aller plus loin. Le jeu, déjà, je pense, il remplit son office, on peut dire, hein.
Oui, il remplit très 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 bien son office là, il est bien stabilisé. Il y a eu une petite modification de règles après les RML7, mais pas grand-chose, et maintenant c'est stable.
Voilà, vraiment une micro adaptation de règles juste pour un détail effectivement qui a été réglé. Et puis ah oui, à noter aussi que donc dans ce jeu, on a peaufiné un peu mieux avec l'aide de Millicent d'ailleurs, Millicent qui était là au RML7 et qui a retravaillé un peu les tableurs. Et bon, on les a encore retravaillés derrière, mais il avait fait des modifs intéressantes. On a repris quelques-unes et voilà, on a des tableurs aussi assez efficaces à jour et qui permettent de faire un compte rendu assez vite. Et d'ailleurs, le jour même des RML7, eh bien le compte rendu a été fait le soir même du jeu. Hein. Voilà, si on fait le jeu proprement bien organisé, normalement on est capable de sortir un compte rendu le jour même. Et donc le jour même, on a fait la vidéo qui résume le jeu en faisant la présentation de ses résultats, puisque c'est le but du jeu, c'est de montrer ses résultats. Tant qu'on les a pas montrés, le jeu n'est pas fini. Et on peut enregistrer une vidéo où on montre ses résultats et puis hop, c'est mis en ligne et c'est terminé. Donc normalement, un jour, un jeu Gconomicus est complètement fini, publication incluse. Hein. C'est faisable puisque tout est pré-mâché. Et bon, alors si on l'a jamais joué, on peut se tromper un peu au début, mais si on y réfléchit bien et qu'on est accompagné par quelqu'un qui a déjà joué et qu'on se prépare comme il faut, bon, ben normalement, un jour, tout est empaqueté, soupli. Voilà. Donc, Gconomicus 2.0, voilà, donc c'est important parce que ça nous a pris du temps hein, de travailler là-dessus. Toi, tu as passé beaucoup de temps sur les graphiques, toi, notamment parce que je t'ai fait travailler avec des retours. Hein. On a discuté hein, sur certains points, tu te rappelles, hein, sur bon, des détails, mais qu'on a fini par mettre au point. Alors, à la suite de ça, donc vu que tu avais donné donc cette conférence au RML7, on parlera bien sûr après de tes contributions informatiques. Dans cette pa première partie, on continue de parler de tes contribution, je dirais, d'animation et d'explication de ce qu'est une monnaie libre. Gconomicus en fait partie, mais je pense que c'est un des meilleurs moyens d'approcher les monnaies libres, c'est de jouer à ce jeu, bien sûr. Tu avais donné donc aussi une conférence, on en a parlé un peu tout à l'heure au RML7, et donc tu en as profité derrière pour, avec cette expérience acquise, hein, que tu avais déjà avant, hein, mais que tu as, disons, consolidée à ces RML7, avec cette expérience acquise, tu as donné quatre conférences cet été, dont on n'est pas au courant d'ailleurs. Donc c'est incroyable. Alors donc,
C'est la même, hein.
ouais, c'est la même, mais on savait pas où t'étais. Alors si on savait que t'en avais fait une à Rambouillet, je crois, et une autre en Mayenne, mais il y en a deux, je savais pas. Mais pour les auditeurs, faut que tu nous expliques. Alors quelle a été ta contribution à ce niveau? Alors, ça c'est très important, je le dis pour les auditeurs qui sont potentiellement des contributeurs pour ceux qui veulent développer une monnaie libre. Hein. Bon, il y en a que ça n'intéresse pas, mais ceux qui veulent développer une monnaie libre, eh bien, une des façons de contribuer, c'est d'expliquer ce que c'est. Donc, notamment, faire ce que fait Vincent, c'est le top de top de ce qu'on peut faire. Hein. C'est donner des conférences explicatives qu'on explique soi-même, et puis aussi, bien sûr, animer des jeux Gconomicus. Alors voilà. Alors ces quatre confs, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, donc j'avais préparé une conférence pour l'IRML7. J'avais déjà fait une conférence à Valence que j'avais complètement remaniée
Ouais.
pour faire celle des RML7, qui est, je pense, beaucoup plus aboutie, plus claire, enfin pour moi, plus précise. Voilà, et donc après celle des RML7, bah, j'ai été réinvité en Mayenne deux fois.
Ouais.
Une fois donc sur un festival, alors je ne sais plus où c'était, voilà, donc c'était sous une petite tente, il y avait très peu de monde, c'était en extérieur, c'était un petit peu rude, mais c'était sympa, voilà. Les gens étaient attentifs, c'était un petit comité, voilà. C'était beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de monde qu'au RML7. Voilà. Et puis une deuxième, alors c'est lors du passage de l'Alter Tour. Alors l'Alter Tour, ce sont des personnes qui font une partie de la France en vélo pour découvrir toutes les alternatives équitables, bio, qui s'organisent dans les villages en France. Donc ils font du cyclotourisme et ils sont invités par les associations locales qui présentent tout ce qu'elles font. Donc l'association Le Sou a présenté ce qu'elle faisait et il y a eu un jeu Géconomicus, un petit Géconomicus qui malheureusement, comme on n'a pas vraiment abouti et donc on n'a pas pu faire, on n'a pas eu le temps de faire de tableur et de résultats.
Ouais.
C'est pour ça que c'est resté confidentiel. Et puis le soir, eh bien, j'ai fait ma conférence. Donc là, il y avait du monde, hein, et des gens qui sont déjà assez éveillés sur les alternatives et qui ont posé pas mal de questions pertinentes.
Et sur lesquels tu as pu répondre sans problème.
Oui, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des très très jeunes. Il y avait des jeunes de 20 ans qui étaient là et qui écoutaient et qui, à la fin, me demandaient, alors, le logiciel, c'est prêt, c'est fini, on y va, c'est parti. C'était très, très demandeur. Et puis, des personnes aussi qui regrettaient que bon, il faille un logiciel. Voilà. Ils auraient aimé qu'on puisse faire une monnaie libre. Par d'autres moyens plus classiques de monnaie papier, par exemple.
Ah, mais c'est possible, hein. La
Voilà,
preuve.
c'est pas impossible. Ce qui,
Ouais.
voilà. Et si des personnes se sentent de le faire, elles peuvent le faire.
Bien sûr.
Voilà, c'est autre chose. Voilà.
Oui, bien sûr, non, mais c'est tout à fait possible. Le principe monnaie libre peut s'appliquer sous diverses modalités. Et d'ailleurs, on fait déjà une monnaie papier libre, en fait, de monnaie libre. C'est tout simplement c'est ce qu'on fait dans le jeu Géconomicus. C'est pas autre chose, hein. Donc, il faut juste adapter ça. Mais le problème des billets, c'est que il faut les imprimer, ça coûte cher. Il faut aussi les sécuriser. Il faut tout un tas de trucs. Enfin, il suffit pas de faire des billets. D'ailleurs, même les billets qu'on utilise dans d'autres monnaies, notamment des monnaies non libres, s'ils sont sécurisés, ils sont quand même contrôlables à distance depuis un centre de vérification informatique. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que les billets sont numérotés, ils ont tout un tas de trucs de sécurité dedans, et si on les scanne, on peut être sûr que le billet est crédible, mais on peut aussi vérifier que ce billet a bien été émis auprès d'un centre informatique. Donc c'est in fine, il y a bien une
Ils ne
informatique
font
qui
que le
contrôle.
reflet d'une monnaie
Ouais.
électronique quelque part qui est stockée dans les ordinateurs.
Ouais, voilà, c'est ça. Ben oui.
Voilà.
Les chiffres sont bien contrôlés par ailleurs, et les billets ne font pas eux-mêmes le contrôle de l'ensemble des billets. Ouais, c'est bien autre chose qui fait le contrôle. Voilà, donc très bien. Alors ça, c'était pour ta deuxième conf, mais il y en a deux autres, donc.
Alors, ben, donc, en tout, RML7, deux en Mayenne et une à Rambouillet.
Ouais.
Peut-être chez moi, et je remercie donc les associations La Fabrique des Colibris et Rambouillet en Transition
Ouais.
Qui m'ont invité, qui m'ont écouté et qui ont fait un article de blog sur le site Rambouillet en Transition.
Ouais.
Il y a un petit résumé qui est très bien fait, voilà, et qui résume très bien ce que j'ai raconté, et j'en suis très content. Voilà.
Voilà, donc Rambouillet, on tape Rambouillet en transition dans un moteur de recherche et
Voilà,
on
et on va
peut.
trouver le blog de l'association et on va voir ce petit article court mais intéressant.
Voilà, donc sur ces quatre confs que tu as donné. Ah oui, donc tu comptes celle des RML7 dans les quatre.
Ah oui, tout à fait.
D'accord. Ah ben oui, non mais parce que est-ce qu'on était en été là au début juin? Non, parce que l'été ça démarre le 21 juin, non? C'est pas ça?
Toujours à des détails.
Donc, ah mais tu me dis quatre confs l'été, moi pour moi l'été c'est le 21 juin, on est d'accord. Donc t'as fait une
4
conf.
conf quand il faisait beau, si tu préfères.
Pardon, que?
Quand il faisait beau.
Quand il faisait beau, voilà, donc ça c'est encore autre chose. D'accord. Donc une au printemps et trois en été, d'accord. Donc c'est si on veut être précis. Donc ben voilà pour cette première partie donc hein, sur tes activités hein, donc générales d'animation. Donc c'est important de montrer voilà que tu es à la fois contributeur informatique et en plus tu fais aussi des animations explicatives. Alors que bon on peut faire ou l'un ou l'autre hein, aussi. Il y en a qui font que le développement parce que ça prend déjà beaucoup d'énergie, ou il y en a qui font que les explications parce que bon, mais par exemple, ils savent pas coder ou ils n'ont pas le temps de faire plus, quoi. Voilà, donc très bien. Donc voilà, on peut dire que tu es très actif. Alors, mais pour cette première partie, je crois qu'on va s'arrêter là. On va revenir juste après la pause musicale, si tu veux bien, pour parler maintenant après d'Unitaire, de tes développements sur Sakya, de l'environnement, le logiciel d'Unitaire, selon ton point de vue, comment ça fonctionne, l'intérêt, où ça en est. Et on aura aussi INSO plus tard, puis on aura bien sûr Cédric hein, qui travaille sur d'Unitaire, qui est le fondateur hein, d'Unitaire, qui nous rejoindra plus tard sur Monnaie Libre, c'est prévu, hein, vous inquiétez pas. Et puis tu nous parleras aussi d'un autre projet, ben, on verra ça après la pause, hein, si tu veux bien. Donc une pause musicale sur Monnaie Libre, est-ce que tu sais comment sont les musiques sur Monnaie Libre?
Oui, je crois qu'elles sont libres.
Et voilà, exactement. Ils sont libres. Donc, une musique libre sur Monnaie Libre. Et on se retrouve juste après avec Vite.
Thank you.
Et nous voici donc de retour hein, sur Monnaie Libre, toujours avec Vincent Witt, hein, développeur d'Unitaire. Alors, on a parlé de tes activités générales hein, dans la première partie, en termes de conférences, en termes d'animation de jeux Economicus. Tu as fait 4 conférences ces derniers mois, une au printemps, 3 en été. Et donc, alors, on va parler maintenant de tes développements. Alors, tu as rejoint un peu rapidement, je dirais, dès le début. Quasiment le projet de client Sakia, hein, qui était le premier client d'Unitaire.
Hein. Oui, j'ai rejoint le projet Sakia parce que il est développé dans un langage que je connais bien, en langage Python. Ouais. Et donc, je me suis senti à l'aise plutôt sur Sakia que sur l'Unitaire. Et donc, j'ai attaqué vie en tête sur Sakia. Alors, au début, Sakia était tout petit client. C'était le seul, mais c'était rudimentaire, mais bon, ça fonctionnait. Et donc, effectivement, je trouve que le code que j'ai fait au début avait du poids parce que il n'y avait pas beaucoup de code, en fait, au début, dans le client Sakia.
Ouais.
Mais bon, Inso a mis à passer la seconde, voire la troisième, voire la quatrième.
Ouais.
Et là, on a un client très riche. Hein, oui, c'est ce qu'on appelle un client riche.
Ouais.
Un client lourd aussi, effectivement. Mais c'est le cahier des charges, c'est que pour Sakia, on essaie d'avoir toutes les informations qu'on peut avoir sur le cœur de la monnaie dans le client. Voilà. Donc pour l'instant, c'est au sacrifice de la, on va dire, de la convivialité. Hein. C'est assez chargé, il y a beaucoup d'informations, mais c'est ce qu'on veut pour l'instant. Voilà.
Ouais, parce que c'est efficace et ça aide au test, ça aide au développement, ça permet de tout contrôler, de tout voir. On peut voir la toile de confiance, on peut voir la liste des nœuds en vert ou en rouge en fonction de leur bonne qualité de synchronisation. Enfin, on a quasiment toutes les informations nécessaires dans Sakia, quoi.
Oui, voilà. Donc beaucoup de choses, ce qui fait qu'effectivement, INSO a beaucoup travaillé. Et du coup, maintenant, moi, ma partie est beaucoup plus congrue et j'interviens surtout pour des corrections de bugs ou des petites refontes. Donc là, effectivement, par contre, il y a un gros chantier qui arrive parce que on s'est rendu compte avec les 150 contributeurs donc, qui testent la monnaie que le client commençait à fatiguer.
Oui.
Voilà, il était temps de faire un peu le ménage dans le code et de solidifier les fondations pour qu'ils puissent encaisser un grand nombre d'utilisateurs et un grand nombre de serveurs qui calculent la monnaie.
Ouais.
Donc voilà, donc INSO a commencé à restructurer le code et je lui fis un coup de main en codant quelques parties. Voilà.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut connaître? Imaginons quelqu'un arrive et qui connaît encore assez mal. Il connaît un peu la notion de monnaie libre parce que sinon sans doute il viendrait pas. Mais il connaît la notion de monnaie libre. Il connaît on peut supposer qu'il connaît assez bien les principes. Mais il connaît pas d'Unitaire ou assez mal. Il connaît pas Sakia du tout. Mais bon, il se trouve que il s'est programmé en Python puisque tu dis que c'est en Python.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il va devoir apprendre pour pouvoir relire le code ou corriger des bugs ou se mettre à rajouter des fonctionnalités? Quels sont les éléments clés qu'il faut apprendre pour entrer dans Sakia?
Alors, INSO a mis la barre assez haut parce que là, en quelques mois, justement, pour arriver à un code qui soit vraiment performant, il a intégré les toutes dernières technologies qui sont arrivées sur le langage Python, à tel point que les librairies qu'on utilise sont les dernières versions qui sont sur GitHub. Donc parfois c'est même pas les releases, c'est vraiment le dernier code modifié. Moi je sais que j'ai modifié du code qui avait été modifié sur GitHub 20 minutes avant. Donc c'est des trucs assez incroyables qui arrivent rarement.
Mmh.
Donc on est vraiment sur des technologies très 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 récentes.
Mmh.
Et donc il faudrait qu'ils maîtrisent surtout l'interface graphique, la librairie Qt. Alors
ouais.
On s'en fout, il y en a qui prononcent Qt ou Qt. Voilà, ça c'est quand même un prérequis parce que toute l'interface est faite avec cette librairie.
Mmh.
Et puis également on utilise ce qu'on appelle de la programmation asynchrone. Et donc, il y a une librairie qui s'appelle, si je ne me plante pas, IA, WIO, HTTP.
Ouais.
Non, comme ça.
Ouais.
Enfin bon, il y a quand même quelques... c'est pas du Python simple. C'est ce qu'il faut retenir, c'est il faut maîtriser Python, Qt et quelques librairies récentes, on va dire.
D'accord, ça c'est pour le code, mais après pour la pour les fonctionnalités, pour la monnaie, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur comment fonctionne la monnaie? Parce que c'est pas une base de données standard, une blockchain. Enfin, il y a quand même une façon d'attaquer le sujet qui doit être un peu spéciale, non?
Oui, alors effectivement, Sakia, c'est le seul client d'Unitaire pour l'instant qui est vraiment peer-to-peer, c'est-à-dire que il va aller scruter tous les serveurs qu'il arrive à joindre. Et il va faire un consensus lui-même en estimant que si une majorité de serveurs a une blockchain avec un état de la monnaie avec une comment un certain bloc, il a estimé que c'est la vérité, que c'est la majorité du réseau. Voilà, ce qui fait que contrairement à Cesium qui lui ne se connecte que sur un serveur et donc à une image l'image de ce serveur de la monnaie. Sakia a une vision plus large, ce qui implique effectivement une connaissance de la programmation, on va dire multi-agent, peer-to-peer, qui est pas si simple à maîtriser effectivement.
Alors, et donc pour plonger là-dedans, comment on obtient les informations, comment on se forme à ça là?
Il y a un tutoriel. Il y a un tutoriel qui a été fait sur Sakia, je crois, qui a été présenté au RML7.
Ouais.
Et qu'on doit trouver sur le forum.
D'accord, il y a un tutoriel, on peut donc commencer à voir ça. Et puis après, si on a plus de questions, éventuellement, on pose une question sur le forum, et puis soit Inso, soit toi peuvent apporter des réponses, quoi.
Voilà, exactement.
Voilà. Il y a aussi, je suppose, l'API d'Unitaire, c'est-à-dire l'interface que propose Unitaire aux clients qui veulent se greffer dessus, qui propose des fonctions, des appels de fonctions, enfin des façons de communiquer avec le réseau d'Unitaire. Ça, on peut apprendre ça aussi.
Oui. Alors justement, il y a un autre contributeur qui s'appelle Moul qui a commencé à faire un petit client en ligne de commande.
Ouais.
Il a été un petit peu rebuté par la librairie qui s'occupe derrière Sakia et qui est autonome, et qui est une librairie Python qui est dédiée, n'est-ce pas, à l'API d'Unitaire. Effectivement, il a été un petit peu rebuté par la complexité de cette librairie. Et donc, on a décidé avec Inso de la simplifier.
Ouais.
Et on a profité des RML8 pour faire des exercices, justement, proposer aux développeurs qui seront là des exercices pour prendre un morceau du code de la librairie et de le simplifier. On va préparer un modèle avant et il faudra réappliquer ce type de transformation à d'autres parties du code. Voilà.
D'accord. Oui, donc ça c'est bien puisque là tu fais un appel au tu fais une annonce vis-à-vis des RML8, on va y revenir tout à l'heure. En rappelant bien sûr que les RML8, c'est avant tout des journées de travail informatique, hein, de travail véritablement sur le code, même si bien sûr il y a aussi des journées ouvertes qui intéressent plus de monde parce que c'est peut-être un peu plus facile d'accès, bien sûr, mais c'est avant tout des rencontres informatiques et il y aura donc ce que tu viens de nous dire, très certainement, donc une plongée dans le corps de Sakia, tout comme il y aura une plongée dans le code de d'Unitaire. Voilà, donc si on est informaticien, développeur informatique et qu'on veut. S'intéresser au projet d'Unitaire, rejoindre un projet de monnaie libre, eh bien, c'est un moyen d'y rentrer, c'est RML8, c'est pas le seul, on n'est pas obligé, hein. Il y a des développeurs qui arrivent là, on voit qu'il y en a quelques-uns là qui s'y mettent, hein, qui arrivent et qui viennent parfois de loin, j'en ai vu un qui vient de Macao là, qui a l'air de vouloir aussi contribuer, puis il y en a un autre, je crois, de Toulouse aussi, qui sera présent, lui, par contre, RML8 qui a annoncé. Enfin, voilà, donc on peut quand même s'y mettre à distance, hein, c'est l'intérêt du code aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des rencontres physiques non plus, mais bon, ça aide aussi et ça peut accélérer certaines choses. Alors voilà, donc tu vas nous parler de Sakia, donc qui est un client stable, hein, qui marche très bien, qui est quand même très pratique, très bien fait, puissant, comme on l'a dit, c'est un client lourd, donc il y a beaucoup de fonctionnalités. Et alors, tu as un deuxième projet, ça va faire un quatrième parce que tu fais des conférences, tu animes Jeconomicus, tu travailles sur Sakya et donc aussi maintenant tu as commencé à préparer alors un bac à sable création monétaire. Hein. Alors c'est quoi ce truc-là?
Alors en fait, je suis en train de préparer des petits graphiques web, un petit peu à l'image de ce qu'a fait David Chalaviel sur l'ATRM en couleur.
Ouais. Un excellent.
Pardon.
On va rappeler que c'est un excellent tuto, hein, la TRM en couleur. La TRM en couleur qui a été réalisée par David, effectivement, qui est sans doute le meilleur tuto informatique qui vous permet de simuler une monnaie libre et avoir tout un tas d'explications en même temps, avec des bulles qui s'ouvrent, des menus contextuels, enfin bon, qui vous expliquent ce qu'est une monnaie libre, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est libre, comment elle se crée, comment elle fonctionne, etc. Donc tu t'es inspiré de ce travail-là un petit peu, c'est ça?
Voilà, je me suis inspiré de ce travail-là, j'ai cherché des outils web capables de faire ça, assez simplement, hein, je voulais pas y passer des heures. J'en ai trouvé, ça commence à me convenir, c'est pas tout à fait fini, et quand ce sera fini, je le mettrai en licence libre sur GitHub, et tout le monde pourra l'améliorer, rajouter des choses. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire rapidement, d'afficher rapidement des graphiques pertinent sur la TRM et sur les monnaies libres pour faire ce que moi je compte faire, c'est-à-dire un atelier de création monétaire en ligne. C'est un petit atelier avec des exercices,
ouais.
Voilà, où on est pris par la main et on a des étapes de plus en plus avancées pour ouais. Tenter de créer une monnaie.
Voilà, très
et
bien.
Et essayer de déjouer les pièges qui nous sont tendus quand on essaie de créer une monnaie.
Ouais, d'accord. Ouais, donc un tutoriel aidé par des outils informatiques au fur et à mesure qu'on avance avec voilà, donc tout un tas de choses. Alors évidemment, on est impatient de voir le résultat, mais bon, on va te laisser quand même le temps de mûrir tout ça. Et il te faudra encore sans doute quelques mois, voire peut-être quelques années, hein, avant de le finir. En espérant que d'ici là, on aura pu pourquoi pas démarrer une monnaie libre disons de dimension intéressante. Sachant que ça commence à bouillir, hein, il y a des impatients, hein, on commence à noter qu'il y a des impatiences qui arrivent quand même. Hein. Il y a des, hein, tu le notes aussi.
Ça bouillonne.
Ouais. Ouais. Donc, mais il faut aussi laisser, comme disait l'autre, il faut laisser un peu du temps au temps aussi. Hein, un projet informatique, ça se peaufine si on veut avoir quelque chose qui tienne la route correctement. Alors voilà, donc sur ce bac à sable, voilà, donc t'en dis pas trop parce que c'est encore on a pu voir quelques démarrages sur ce projet-là rapidement, mais bon, donc c'est toujours c'est en gestation, mais ça te fait un projet en plus, mais toujours donc dans ce sujet monnaie libre. Alors ce profil du 17 au 20 novembre, hein, donc les 8e rencontres des monnaies libres. Alors, il y en a deux par an, hein, donc ça fait 4 ans que ça a démarré, sachant que là la première rencontre, hein, il devait y avoir 3 participants. Hein. C'était encore très peu organisé, mais dès la troisième rencontre, il commençait à y avoir déjà pas mal de monde. Alors, 8e rencontre des monnaies libres à Toulouse, c'est la deuxième plus grande ville qui va accueillir ces monnaies libres après Paris. Alors, comment tu prépares ces 8e rencontres? Alors, tu as déjà participé, tu nous l'as dit tout à l'heure, à 3 rencontres, donc ça va être ta 4e. Donc tu vas devenir un expert, un vieux de la vieille, hein, des rencontres. Hein.
Je crois que c'est ma 5e, parce que quand je suis arrivé à la... J'étais à la 4e,
ouais.
5e, Valence 6e, 7e, et 4, on est fait 4.
Ouais, d'accord.
Donc... Déjà, et puis comment je prépare? Bon, ben j'ai toujours sous le bras la même conférence, alors ça, par contre je ne touche pas à la conférence.
Ouais.
C'est la même, donc je ne sais pas si je la ferai ou pas, ça, on verra s'il y a d'autres conférences plus différentes. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de me concentrer donc sur les travaux l'atelier Sakya,
ouais.
Sur la librairie de l'API, ça c'est vraiment très important.
Bien sûr, c'est plus important.
J'essaierai d'animer le jeu le samedi, Jeconomicus,
ouais.
Pour répondre aux questions sur les règles. Voilà, et ce sera déjà pas mal.
Ouais, ça sera pas mal. Oui, c'est important que pour ce jeu, il y a quand même des gens qui le maîtrisent, qui ont déjà joué plusieurs fois, qui l'ont surtout animé plusieurs fois. Parce que sinon, évidemment, si on l'anime pour la première fois, on risque de se faire un peu déborder, hein, parce qu'il y a du monde, il y a un peu de bruit. Il faut quand même tenir les règles et tenir les joueurs qui sont parfois agités, hein, on peut le noter ça. Qui sont
Oui,
parfois.
parfois espiègle.
Ouais, parfois espiègles, voilà, exactement. Donc tu prépares donc une intervention sur les journées informatiques. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs concernant ces rencontres des monnaies libres en général et CRM8 à Toulouse? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les informer de ce que c'est que des rencontres de monnaie libre? Est-ce que c'est bien, c'est sympa, c'est ennuyeux, ça a de l'intérêt, comment c'est?
Non, c'est jamais ennuyeux, ça c'est sûr. C'est très très enrichissant parce que effectivement, alors les 2 premières journées s'accumulent deux. On s'enrichit sur 2 volets, on s'enrichit sur la compréhension de la monnaie et on s'enrichit sur la compréhension du code qui gère une blockchain. Et ça, c'est des choses très très intéressantes en tout cas à étudier. Et puis le week-end, eh ben, on s'ennuie pas non plus et on fait ça avec le sourire, on fait des jeux et on fait des ateliers. Et puis effectivement, les questions bouillonnent à la fin du samedi, après les jeux, après les ateliers, et donc on a des conférences qui nous expliquent un peu tout ça. C'est vraiment, je pense, c'est l'endroit où il y a toutes les réponses en fait aux questions qu'on peut se poser sur les monnaies libres et sur la théorie relative de la monnaie. C'est là qu'on trouve les réponses.
C'est là qu'on peut trouver des réponses. Alors, à noter hein, aussi que cette année, hein, pour ces 8e rencontre, mais on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on va en parler jusqu'à fin novembre. On aura aussi un des organisateurs sur Monnaie Libre, bien sûr, d'ici quelques semaines. À noter, donc, ça se fait en partenariat cette année avec le Capitole du Libre, qui est une rencontre qui a lieu à Toulouse depuis plusieurs années déjà, où il y a déjà eu des conférences d'ailleurs sur la monnaie libre et sur la théorie relative de la monnaie. Carole Fabre était intervenue. Mais cette année, donc, ces rencontres des monnaies libres se font en partenariat avec le Capitole du Libre, notamment, enfin, surtout pour les deux journées portes ouvertes, en quelque sorte, hein, les 2 journées de présentation générale. Les journées informatiques étant plutôt à part, et sont avant, de toute façon, ces rencontres du Capitole du Libre qui sont des rencontres de logiciels libres, hein, voilà, au sens large. On parle de GNU Linux, on parle de Firefox, on parle de LibreOffice dans ces rencontres Capitole du Libre, on parle de tout ça. Et donc on peut parler d'Unitaire hein, aussi, puisque d'Unitaire est un logiciel libre, tout comme Sakya et tout comme Cesium. Voilà. Alors, quand on va à des rencontres comme ça, comment ça se passe sinon, en général, toi qui as déjà vécu ces rencontres aussi, comment on s'organise et sur place, qu'est-ce qui se passe le soir, par exemple? On fait comment ça fonctionne?
Eh bien, en général, on se contente pas de discuter, d'agir et de partager pendant les journées. Pendant les pauses déjeuner, ça n'arrête pas de discuter. Le soir, on se retrouve aussi autour d'un verre et ça continue à partager, à répondre, à questionner. C'est la partie conviviale, en fait. C'est la troisième mi-temps. À Toulouse, il y a toujours une troisième mi-temps. C'est
Ouais, oui,
un
oui,
peu le
c'est
début, et voilà. Et je pense que malgré le mois de novembre, je pense qu'il va faire chaud.
Ah oui, d'accord. Donc tu penses qu'il va faire chaud à Toulouse, d'accord. Ça va. Donc ça va être, ouais, sans doute intéressant. En tout cas, on sait qu'ils sont à fond. Il y a un très beau site hein, pour ces rencontres des monnaies libres. Ça s'appelle. C'est le collectif qu'ils ont créé à l'occasion d'ailleurs, hein, mais qui a vocation à faire d'autres choses sur les monnaies libres. Ça s'appelle Monnaie Libre Occitane, hein, point org, Monnaie Libre Occitane, point org, et vous avez ce site collectif Monnaie Libre Occitane. Vous aurez la page consacrée aux 8e rencontre des monnaies libres organisées notamment par Yann Beauvois et donc Mathieu Bise, qui a initié hein, cette organisation à Toulouse. C'est lui qui les a annoncés au RML7. Voilà. Alors, un dernier mot, Vincent, peut-être pour les auditeurs, concernant le projet d'Unitaire, concernant les monnaies libres en général. Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, c'est quoi le calendrier?
Alors, je pense que il faut foncer sur le site cesium.unitaire.fr et s'inscrire et demander des certifications et donc participer au test de la monnaie de test. Et puis il faut aller sur le forum et puis il faut voir ce qui se passe, et si on a des compétences informatiques, eh bien il faut nous aider sur le code ou sur les bugs. Et puis si on n'a pas de compétences informatiques, il faut aller quand même sur les forums et puis poser des questions et donner son avis. Voilà. En tout cas, il faut avancer sur le sujet pour que l'année prochaine, j'espère, la première monnaie libre voit le jour.
Eh oui. Alors il y en a déjà eu, hein, on peut dire, hein, Monnaie M de Merom, hein, t'es déjà une monnaie libre. Après, elle était centralisée, donc elle était pas aussi poussée que d'unitaire, qui lui est P2P, pair à pair. Mais on peut dire quand même que son code, en tout cas, elle était très proche d'une monnaie libre. Elle avait un petit souci de démarrage, mais peu importe, c'était quand même dans l'idée, c'était quand même très très proche, et à long terme, ça aurait convergé vers une monnaie libre. Donc on peut pas dire non plus que ça serait la première, mais disons que ça serait la première en pair à pair, oui. Voilà, on pourra dire que ça serait les premières monnaies libres en pair à pair, ce qui est un peu différent. Voilà, donc ben merci Vincent, merci donc de ton témoignage, hein, sur Monnaie Libre. C'était donc une émission intéressante sur tes contributions, dont on voit qu'elles sont variées, sont riches. Hein. Tu es tout azimut, on peut dire que tu es dans toutes les dimensions des monnaies libres à fond, et en plus tu es un spécialiste de la vidéo, hein. Ce qui fait que tu sais enregistrer des conférences, et tu sais quand c'est mal enregistré, tu sais le dire aussi. Hein, c'est ça.
Hein. Oui, c'est ça,
ouais. Voilà, t'es aussi un spécialiste vidéo, voilà. Enfin, t'es vraiment multitâche. Hein. Donc, merci beaucoup, Vincent. On te retrouve donc sur le forum d'Unitaire, tu l'as dit. On te retrouve sur le projet Sakia, sur le projet Géconomicus, que vous pouvez aussi rejoindre. Vous pouvez aussi contribuer graphiquement. Pourquoi pas créer un set de jeux en plus de celui qu'a fait Vincent, qui est le set de jeux Révolution. On peut aussi jouer avec des cartes classiques. Mais si on a des sets de cartes dédiées, c'est pas plus mal. On peut en créer d'autres, pourquoi pas. Vous pouvez aussi contribuer en organisant, pourquoi pas, les rencontres des monnaies libres 9 ou les rencontres des monnaies libres 10. Simplement, vous portez candidat et vous nous faites savoir. Voilà, et donc on se retrouve au RML 8 avec Vincent, en fait sur le salon d'Unitaire, même le salon chat, dans 5 minutes. Et... Et donc je vous dis au revoir, je vais vous laisser avec notre générique fétiche. Hein, au revoir Vincent.
Au revoir Stéphane.
Et je vous laisse donc avec No More Dreams. Au revoir.